Nzamba.
Nzambi la samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
C'est un grand plaisir de vous retrouver dans cette rétrospective de l'actualité de la semaine de ce dimanche 26 mai 2024. À la présentation, vous êtes avec Josephine Johnson-Munzimana. Recrudescence de la maladie du choléra dans les périphéries de la ville de Bujumbura. 52 cas de choléra sont en train d'être traités dans les différentes structures sanitaires de la capitale économique et dans ses environs. Les habitants craignent le risque de propagation de cette maladie si rien n'est fait dans l'immédiat. Les détails avec mon fils Niyongere.
Des cas de choléra sont signalés depuis quelques semaines dans les périphéries de la ville de Bujumbura. Selon les chiffres recensés dans certains centres de santé, 1800 personnes ont attrapé le choléra. Les provinces touchées par cette maladie liée au manque d'hygiène sont notamment Bujumbura, Bujumbura Miri, précisément dans les quartiers nord, ainsi que les provinces de Bubanza, Cibitoke et Rumonge. Parmi les personnes contaminées, plus de 1750 sont guéries, tandis que 10 sont décédées. Les cas actifs sous traitement à l'hôpital Prince Régent Charles sont au nombre de 37 et cela s'ajoute à 15 nouveaux cas admis dans les centres de santé d'Issaré, dans la province de Bujumbura, Bujumbura Nord et Bujumbura Centre. Le manque d'hygiène serait à l'origine de la maladie. Cette situation inquiète les habitants des quartiers périphériques du nord de la ville de Bujumbura qui souffrent d'un manque criant d'eau potable. La peur gagne la grande majorité des habitants des quartiers de la ville de Bujumbura qui craignent la propagation de cette maladie si des mesures d'urgence ne sont pas prises dans les meilleurs délais. Signalons que cette maladie n'a pas encore été déclarée comme épidémie par l'autorité compétente qui est le ministère de la Santé publique.
Le choléra est une maladie qui guérit quand elle est traitée assez tôt, c'est ce qu'assure l'expert en épidémiologie comme Konakuze. Selon lui, cette épidémie est liée à plusieurs causes au Burundi, dont le dénominateur commun est l'extrême pauvreté dans laquelle la population croupit. Comme Konakuze se base sur la rareté de l'eau potable qui entraîne l'insalubrité et pousse les gens à utiliser l'eau sale qui les contamine.
Une personne contaminée peut recevoir un traitement efficace et guérir de cette maladie. Mais ici, il faut agir très vite, parce que vous savez, un seul cas de choléra déclaré déclenche une épidémie. Parce qu'on sait bien que la transmission est très rapide. Quand il y a des conditions favorables, ça veut dire une hygiène précaire, manque d'eau potable, manque de connaissances, la population qui n'est pas sensibilisée, éduquée, mais aussi par promiscuité, une agglomération de population. Le cas du Burundi, c'est plutôt la pauvreté. C'est le manque d'eau potable partout et manque d'hygiène causé en grande partie par une pauvreté extrême de la population actuellement parce qu'ils ne peuvent plus acheter des instruments pour conserver l'eau de manière à éviter que les mouches qui peuvent aussi transmettre cette maladie, des selles déposées quelque part, quand il y a une défécation, les enfants ou les adultes, et les mouches peuvent voler des selles vers l'eau qui est conservée dans la maison. Et ces mouches peuvent être des vecteurs intermédiaires dans la transmission de cette maladie. Alors là, vous voyez, quand il y a une pauvreté extrême au niveau de la population burundaise, les gens ne peuvent pas acheter des savons pour hygiène des mains, il y a aussi manque de la promotion sociale, à l'hygiène et à l'assainissement, et manque d'éducation pour la santé. Il y a beaucoup plus de facteurs liés à la vie misérable que les Burundais traversent actuellement. Ils n'ont plus de pouvoir d'achat raisonnable pour les besoins de base. Et tout cela va empirer la situation dès qu'il y a une épidémie comme le choléra par exemple. Mais une autre épidémie, quand il va frapper le pays, ce sera la même chose. On va observer cette tendance et puis aussi une difficulté à endiguer, à contenir cette épidémie.
Néanmoins, comme Konakuze indique que cette épidémie peut être combattue, il faut notamment commencer par la sensibilisation de la population sur la conduite à adopter durant cette période. Dans le même ordre, le gouvernement doit mettre en place une commission multisectorielle de surveillance. Mais tout cela après que la population ait reçu tout le kit nécessaire pour se protéger contre cette maladie et ainsi éviter sa propagation. Encore une fois, on écoute comme Konakuze.
Il faut qu'il y ait d'abord une surveillance de cette maladie, voire même un approvisionnement d'eau potable, approvisionnement des ustensiles de cuisine, de protection des mains, faire des hôpitaux de prise en charge, d'isolement et le plus rapidement possible, éviter une forte transmission, mais aussi à long terme, approvisionner l'eau potable, utilisation de latrines et aussi lavage des mains. Et ce sont des mesures préventives qui sont très efficaces, que nous avons déjà vues et expérimentées dans beaucoup d'autres pays, mais aussi au Burundi, car le choléra n'est pas une épidémie qui n'est pas connue au Burundi. Il y a aussi des vaccins. Maintenant, il y a des vaccins contre le choléra. Et même si il y a beaucoup de discussions là-dessus, sur son efficacité et surtout aussi sa durabilité. Donc, mais en cas d'épidémie qui touche une population qui n'a pas les moyens de se faire une bonne prévention, et je crois bien que administrer un vaccin serait un autre moyen préventif pour contenir la contamination et la propagation de cette maladie. Mais aussi, il faut savoir que le point de base, le point le plus commun au niveau de la population, c'est plutôt la pauvreté extrême causée par plusieurs facteurs liés à la gouvernance, par exemple, liés au manque de plans sociaux pour développer le niveau de vie des populations burundaises. Et cela peut causer, mettre en danger et mettre en péril, surtout, ça fait une porte pour plusieurs maladies, dont le choléra, bien sûr.
Parmi les problèmes qui hantent la population figure aussi le manque d'eau potable. C'est le cas de la population de la zone de Gasenyi, commune de Buganda, dans la province de Cibitoke, qui lance un cri d'alarme. Les habitants n'ont pas accès à l'eau potable et craignent d'attraper les maladies des mains sales. Ils appellent les autorités à résoudre le problème pour éviter le pire. C'est un reportage d'Alexandrine Keza.
Les parties les plus affectées sont la 6e avenue de la zone Gasenyi, ainsi que la sous-colline Luhembe, qui se trouve en contrebas de cette avenue. Les habitants sont d'autant plus remontés que des bienfaiteurs leur avaient installé une adduction d'eau, mais la machine à fermenter le liquide est tombée en panne. Ils disent avoir demandé de l'aide pour qu'elle soit réparée, mais sans succès. Même l'eau de robinet qui leur avait été pourvue ne vient que très tard dans la nuit. Ils craignent pour leur santé.
Nous avons alerté et même les administratifs nous ont aidés pour voir si le problème peut être remonté plus haut afin qu'ils viennent réparer l'adduction d'eau. L'eau des robinets vient un jour par mois et quand elle vient, c'est la nuit et les gens dorment déjà. Imaginez quelqu'un qui utilisait l'eau du robinet aller puiser l'eau dans la rivière Kavura à moi. Nous allons attraper des maladies parce que nous buvons de l'eau sale.
Ce problème de pénurie d'eau a également comme conséquence de désorganiser les ménages. Ceci affecte particulièrement les femmes qui doivent aller chercher l'eau du robinet en plein milieu de la nuit, même là encore, avec très peu de chances d'en trouver.
Aller puiser de l'eau nous prend trop de temps. Parfois, nous nous réveillons à 1h ou 2h du matin, et là nous faisons la queue, il arrive que l'eau tarisse et nous nous résignons à aller chercher l'eau de la rivière. Vous comprenez que nous subissons des effets très néfastes, car nous éprouvons énormément de difficultés à trouver de l'eau pour assurer la propreté.
Ces habitants appellent les autorités compétentes à réhabiliter l'adduction d'eau, mais aussi l'eau de robinet, afin qu'elle soit disponible aux heures de la journée, au moment où ils peuvent effectivement s'en servir.
Merci à toi, Alexandrine Keza. Deux élèves filles finalistes au lycée de Kayanda sont emprisonnées au cachot du commissariat de police à Kayanda. Elles ont été arrêtées par la police alors qu'elles approchaient le domicile de leur famille après un renvoi définitif, un renvoi décidé par les autorités du lycée. Les informations sur place indiquent que les deux filles n'ont pas commis d'autres fautes après leur renvoi. Les voisins et les parents déplorent un tel comportement de la police. Plus de détails avec Jean-Marie Ndarchinze.
Les informations provenant du lycée de Kayanza font savoir que les deux élèves qui allaient terminer leurs études de fin des humanités générales pédagogiques ont été définitivement chassés ce mercredi après la réunion du corps professoral. Ils sont accusés de nouer des relations suspectes avec certains professeurs masculins du dit établissement. Ils ont été chassés vers 17h de ce mercredi. Quand ils ont quitté l'école, ils ont été poursuivis par l'économe et un groupe du lycée leur demanda d'attendre qu'on allait payer des taxis moto. Les filles ont refusé, ce qui a créé une dispute. Voyant que la situation allait leur créer des ennuis, les filles se sont enfouies dans les buissons, laissant derrière elles leurs bagages. mais la chasse a continué. Arrivée au centre-ville de Kayanza, elles se sont vues arrêtées par les policiers et les jeunes Imbonerakure du lycée de Kayanza. Par la suite, elles ont été conduites au cachot du commissariat de Kayanza. Un tel comportement est déploré par les parents et les défenseurs des droits de l'homme qui disent ne pas comprendre comment les élèves peuvent être persécutés puis emprisonnés injustement.
Inzamba.
Six personnes ont été interpellées cette semaine en train de déterrer un enfant à Binos. Certains ont été arrêtés en flagrant délit par la police, d'autres après dans différents lieux de la commune de Guialo en province Lutana. Une somme de plus de 150 millions aurait été promise comme paiement des parties du corps d'un albinos. Le point avec Pierre Gahungu.
Selon des sources dans la commune de Guialo, 3 des 6 personnes ont été arrêtées dans la nuit de mercredi à jeudi dans le cimetière de Guialo. Elles étaient en train de déterrer un enfant albinos inhumé le mercredi matin dans ce même cimetière. Les autres ont été interpellés dans la journée de jeudi à leur domicile sur dénonciation de co-accusés. Selon les mêmes sources, confirmées par la police, ces personnes auraient été impliquées dans un marché de vente des parties du corps d'un albinos en République unie de Tanzanie. Ce marché aurait été évalué à 150 millions une fois que l'une des parties de ce corps serait trouvée. Le jeune albinos, sur le point d'être déterré, est décédé dans des circonstances obscures, selon des sources proches de sa famille. Il est question qu'il aurait été empoisonné par des personnes qui ont participé à son déterrement. Une autre source indique que la police avait des informations selon lesquelles le corps de cet enfant allait être déterré. La police a tiré des coups de feu en l'air pour les empêcher quand ils ont commencé à creuser la tombe. Parmi les personnes interpellées figurent des responsables du CNDD-FDD, des administratifs et des fonctionnaires. Les sources à Guialo mentionnent André Ndaïsenga, responsable du CNDD-FDD sur la colline Moura en zone de Guialo, Bosco Ndaïsenga, militant du CNDD-FDD et responsable du stock communautaire de la colline Moura, Bosco Busago, élu sur la colline Moura, un directeur de l'école fondamentale Nyagahara, Innocent Chongera, Gervais Bigirimana et un autre venant de la commune de Kinyinya de la province de Ruyigi. Tous sont détenus au cachot du commissariat communal de Guialo. Il est à noter que plusieurs dizaines de familles ayant des enfants albinos sont en situation de déplacés internes depuis plus de 10 ans. Elles se sont réfugiées dans les enceintes de la paroisse catholique de Guialo de peur que leurs enfants ne soient exécutés. Elles demandent que les auteurs soient punis de manière exemplaire afin de dissuader les crimes commis contre les albinos.
Restons encore dans la commune de Guialo de la province Lutana où un militant du CNL est détenu sans dossier depuis plus d'une semaine après son arrestation. Selon des sources policières à Guialo, après sa comparution devant un officier de police judiciaire ce jeudi, une grâce est envisageable auprès d'Alexis Balagouma, responsable du CNDD-FDD moyennant les pots de vin de 350 000. Les membres de son parti réclament sa libération et sans condition, car il est détenu injustement pour des mobiles politiques. Il était avec Jean-Dia Barugila.
Selon des sources proches du dossier, Mekiad Kavura, un militant du CNL, a en fait été traduit devant un officier de police judiciaire ce jeudi, après avoir subi plusieurs séances de torture par le responsable du service de renseignement de la commune Guialo. Des sources proches de sa famille et des sources policières indiquent que Mekiad Kavura a été présenté devant l'officier de la police judiciaire ce jeudi. À leur grande surprise, il lui a été demandé une somme de 350 000 francs burundais pour bénéficier de la grâce auprès d'Alexis Baragouma, responsable du CNDFDD en zone Guialo. L'officier de la police judiciaire n'a pas constitué de dossier contre Mekiad Kavura, mais lui a prodigué des conseils pour sortir du cachot. Aller chercher une somme de 350 000 francs burundais pour Alexis Baragouma pour voir s'il peut être gracié, témoigne une source policière. Les responsables du CNL à commune de Guialo, Fidèle Agatogwasa, déplorent que leurs militants soient régulièrement interpellés soit par la police, le SNR, soit par la milice de jeunes Imbonerakure du CNDFDD sur injonction d'Alexis Baragouma, responsable du CNDFDD à commune de Guialo. Ils demandent la libération de leurs militants, d'autant plus qu'aucune infraction ne pèse sur lui. Pour être libérés, ils sont obligés de payer des fonds de vin à son responsable du CNDFDD, Alexis Baragouma. Dans le cas contraire, ils sont transférés dans des prisons. Alexis Baragouma est démobilisé du CNDFDD, considéré comme un dur de son parti, dans cette commune. La rédaction de la radio Inzamba Agathe Akawe n'est pas encore parvenue à obtenir la réaction du commissaire de police à Giharo ni celle d'Alexis Baragouma pour plus d'éclaircissements sur la détention de Melquiade Kabura.
Droits de l'homme, avant de clore cette rétrospective de l'actualité de la semaine, ceux qui ont exigé à Joy Akiman, la fille du général Alain Guillaume Vugnoni, de se déshabiller complètement pour être fouillé, doivent être poursuivis devant la justice. C'est l'avis du mouvement Inamahoro des femmes et filles pour la paix et la sécurité. Le mouvement fustige ainsi l'attitude des policiers qui gardent la prison de Gitega où est incarcéré l'ancien premier ministre. Sa fille lui avait rendu visite le mercredi 22 de ce mois de mai lorsque les policiers lui ont intimé l'ordre de se dénuder. Pour Marie-Louise Avelchako, présidente de ce mouvement, les lois du pays sont foulées aux pieds par les plus hautes autorités qui dénaturent la culture burundaise. Suivez-la.
Quand un dirigeant ordonne à ses subalternes de déshabiller complètement quelqu'un pour le fouiller, et quand cela peut être accepté, qu'une fille ou une femme soit déshabillée à l'entrée pour ensuite l'amener devant son père pour le saluer, lui apporter à manger et s'asseoir et causer avec lui toute nue, c'est une honte. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu au Burundi. Quel est ce pays dont nous parlons, comme ce n'est plus le Burundi que nous avons connu? Où sommes-nous exactement? Même si vous haïssez une personne au point de ne plus sentir aucune obligation de le respecter, vous auriez au moins le devoir de vous respecter vous-même. Le plus regrettable dans tout cela est que ces ordres seraient venus d'en haut. Si l'honneur, la dignité, l'ubuntu, la valeur humaine n'ont plus de place dans notre société et que personne n'en est responsable, que devient notre pays? Où sommes-nous aujourd'hui et qui gouverne le Burundi? Autre chose, et non moins regrettable, et même très importante, c'est le fait que les lois et les règlements de notre pays n'ont plus aucune place. Elles sont violées par les hauts responsables et leurs subalternes, par peur pour leur peau, acceptent d'exécuter des ordres contraires à la loi et à la moralité et deviennent tous, collectivement, des malfaiteurs. Où sommes-nous et qui gouverne le pays? Toute profession a des lois et des règles qui la gouvernent et que ceux qui l'exercent doivent toujours respecter. Il serait judicieux que ces actes commis à la prison de Gitega soient poursuivis pour que ceux qui les ont commandités et ceux qui les ont exécutés soient tous poursuivis et punis par les lois en vigueur. Cela ne devrait même pas se faire au secret. Tous les Burundais devraient savoir qu'il y a encore des interdits dans notre culture, et qui dira, et que quiconque passe outre en sera puni, toujours. Sans aucune considération de la victime de ce traitement dénoncé, le mouvement Inabahoro fustige son comportement ignoble des responsables et demande que cette question soit traitée avec attention pour que cela ne se reproduise plus. Leurs intérêts ne devraient pas enterrer les valeurs et la culture de notre pays.
Voilà, chers auditrices et auditeurs, c'est par cet élément de droit de l'homme que nous bouclons la rétrospective de l'actualité de la semaine. Merci pour votre aimable écoute. Au revoir et bonne fin de week-end.
Ngije Nzamba
Nzamba irasamirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.